poche sous les yeux, l'émission.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro des Poches sous les yeux, l'émission en direct des ondes de Radio Béton 93.6, mais surtout en direct du Théâtre Olympia à Tours à l'occasion de la 9e édition du Wet Festival. C'est donc l'heure de parler littérature, mais pas que, de faire connaissance avec des auteurices, mais pas que. Bref, des poches sous les yeux, c'est depuis plus de 4 ans votre rendez-vous mensuel avec le livre sous toutes ses formes depuis de haut lieu de la culture. Et comme notre rendez-vous coïncide ce mois-ci, en ce mois de mars, avec le Festival Wet, et qu'en matière de festival, comme dirait l'autre à Béton, on s'y connaît, il eût été dommage que nous manquâmes cette occasion de parler théâtre sur les ondes de Radio Béton, n'est-il pas ? En tout cas, c'est avec Bérangère Ventouzo que je vous propose de disserter un instant sur cette question, car nous avons le plaisir de l'accueillir à notre micro pour ouvrir cette émission. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Eh bien Bérangère, tu as pris la tête du Théâtre Olympia il y a un peu plus d'un an.
Oui.
Voilà, et donc tu n'as pas dérogé à cette tradition du WET,
non,
qui vit sa 9e édition. Qu'est-ce que ça représente pour toi et est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qui ne sont peut-être pas familiers avec le théâtre ce que c'est que le WET?
Alors le WET, c'est l'acronyme de Week-end au théâtre ou alors Week-end Émergence Théâtrale. Donc c'est un festival qui est dédié à l'émergence théâtrale française et européenne. Ça, c'est nouveau. Et le Festival Wet a la particularité d'être programmé par la jeune troupe du Théâtre Olympia, qui est donc une jeune troupe qui assure une permanence artistique au cœur du théâtre pendant 2 ans. Ils sont sous contrat avec le théâtre pendant 2 ans. Et c'est eux qui sillonnent la France et certains pays d'Europe pour aller découvrir des spectacles de jeunes créateurs, de jeunes artistes, hommes et femmes, dont c'est la première ou la deuxième pièce. Et donc là, le Festival Wet réunit 8 spectacles, 8 propositions venues d'un peu partout en France.
D'accord. Parce que être jeune comédien, c'est aussi s'inspirer, voire programmer des spectacles.
Ben, je trouve que c'est intéressant pour eux. C'est comme quand, pour parler de littérature, quand beaucoup d'auteurs disent qu'écrire, c'est beaucoup d'abord lire. Je pense que pour être un bon interprète, il faut avoir une bonne connaissance aussi du spectacle. Il faut voir d'autres acteurs, il faut aller voir des pièces. Ça fait partie de l'affinage de son propre outil théâtral.
D'accord. C'est la 9e édition. C'est une initiative de Jacques Vincey,
oui,
ton prédécesseur.
Oui.
Tu disais hier soir, en ouverture de festival, tu avais plaisir à perpétuer.
Oui.
Et c'est quelque chose d'unique.
C'est quelque chose d'unique le fait que des temps forts ou des festivals sur l'émergence en France, il y en a quelques-uns. Celui-ci a vraiment la particularité d'être programmé par les pairs en fait de ces jeunes artistes. Ça, c'est vraiment unique en France et c'est ce qui fait la beauté de ce festival.
Et qu'est-ce que ça implique finalement de lâcher prise et donner un peu carte blanche à cette jeune troupe?
Bah, c'est assez joyeux parce que ils nous déplacent aussi beaucoup. Leur regard nous déplace. Ils sont aussi une grosse force de frappe parce qu'ils sont 8 au sein du JTRC, donc ça leur permet d'aller voir beaucoup de choses. Je crois que là, ils ont à peu près regardé plus de 300 propositions pour arriver à cette programmation de 8 spectacles. Donc c'est aussi une force de prendre la température, prendre le pouls de la jeune création en France. Donc on définit un cadre un peu avec eux, des objectifs. Le cadre, ça peut être qu'il n'y ait pas que des seuls en scène, qu'il y ait des textes d'auteurs contemporains, qu'il n'y ait pas que des pièces sans texte ou que du théâtre documentaire ou que du théâtre du réel, qu'il y ait une proposition pour les enfants. Là, c'était le cas de Multibrouille de ce matin.
Apprécié, oui.
Voilà. Qu'on soit attentif aux compagnies de la région, compagnies émergentes de la région. Et puis, je pense que c'est pas mal déjà comme cadre. Et puis oui, la nouveauté, c'est que comme dans le projet que je porte pour le Théâtre Olympia, il y a maintenant la création d'un temps fort européen qui consiste dans le fait d'inviter chaque saison un pays, de porter une sorte de focus sur un pays. Cette année, le temps fort italien qui a eu lieu en novembre a invité l'Italie. Donc j'ai aussi demandé à la jeune troupe de dénicher des spectacles émergents italiens. Donc il y en a un, 35040, qui est présenté à l'Hôtel Gouin,
ouais,
qui est une mise en scène d'un artiste italien.
Super. On va faire un petit crochet sur un sujet dont on parle régulièrement, c'est finalement la lutte de la culture pour sa propre survie. Là, le tarif pour le WET est complètement abordable.
Ouais.
Finalement, ça veut dire que c'est un creux dans votre budget annuel. Finalement, comme toute la saison, c'est aussi une part de subvention et une part de billetterie.
Ben, c'est un engagement, oui, fort. C'est ce qu'on appelle le service public des arts et de la culture, qui est un des rares lieux qui échappe encore un peu aux dynamiques capitalistes. Donc on n'est pas là pour être rentable, on est là pour faire en sorte que le plus de gens possible découvrent les auteurs, les artistes contemporains et découvrent le théâtre et viennent pratiquer le théâtre. C'est dans nos missions et c'est ça qui est mis à mal comme la plupart des services publics aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prises de parole aussi politiques pendant ce WET pour dire que il faut faire attention. On voit bien que tout ça est très fragile, que les choses qu'on pensait immuables, acquises
hier soir,
ne le sont jamais.
Ouais, hier soir, une créatrice invitée à l'occasion du festival a pris la parole justement et décrivait comment des subventions étaient battues en brèche dans certaines régions voisines. Comment ça se passe pour le Théâtre Olympia? Est-ce que il y a encore une écoute pour que finalement le projet que tu mènes ne soit pas trop questionné sur ce champ-là?
Alors il y a un dialogue avec nos partenaires qui est très... le mot n'est pas serein, mais actif en tout cas. On est vraiment en dialogue. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Il y a parce que si je pense à la région voisine en Pays de la Loire, il y a une coupe totale des budgets de la culture qui a été faite sans aucune concertation, de manière extrêmement brutale et unilatérale et violente.
Ouais.
C'est pas du tout le cas ici en région Centre-Val de Loire. Après, il y a encore des arbitrages budgétaires qu'on ne connaît pas, hein, par rapport à notre budget de la saison prochaine. Pour l'instant, on passe à peu près entre les missiles. Mais jusqu'à quand? Enfin, je ne suis pas du tout sereine à cet endroit. Et personne ne l'est. J'étais hier à la réunion de l'association des CDN de France. Et la situation est fragile partout en France.
Partout. Hein, ouais. Mais finalement, par rapport à nos voisins de Pays de Loire, on est quand même un peu moins mal lotis.
Absolument.
Voilà. On va parler art, parce que finalement, c'est le projet que tu conduis pour le Théâtre Olympia. Tu mènes la barque avec des artistes associés,
oui,
mais aussi avec des auteurs et des autrices.
Oui.
C'est une nouveauté pour le Théâtre Olympia de s'entourer d'auteurs et d'autrices.
Oui.
Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? En quoi c'était important de les avoir autour de toi?
Je pense que c'est l'intérêt du fait que c'est les CDN, donc le CDN de Tours, sont dirigés par des artistes. Donc ça veut dire qu'on donne aussi un cap, une ligne artistique éditoriale forte. Et cette ligne éditoriale, moi, je l'ai puisée dans ce qui fait mon ADN de metteur en scène. Et donc la question des auteurs, et notamment des auteurs et des autrices contemporaines, elle est très présente dans mon propre parcours. J'ai toujours monté des textes, principalement des textes du répertoire contemporain, même si j'ai fait des détours par Robert Walser, par exemple, et puis plus récemment par Ionesco. Mais j'ai beaucoup monté d'auteurs et d'autrices contemporaines, donc c'était important pour moi qu'il y ait cette présence au sein du CDN d'un auteur, Nicolas Doutet, qui est partenaire de longue date. J'ai déjà monté une de ses pièces, il est régulièrement dramaturge de mes projets, et c'est lui qui va écrire aussi la pièce que je prépare pour la rentrée prochaine. Et puis une jeune autrice qui sort de l'ENSAT, qui est l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, qui est basée à Lyon et qui est une des rares écoles en France qui a une section de littérature théâtrale.
D'accord.
Il y en a quelques-unes, hein, mais l'ENSAT, c'est un peu l'école emblématique. Et donc Béatrice Bienville sort de cette école. Il y a quelques années qu'elle en est sortie. Et c'est une autrice vraiment passionnante dont on pourra voir la création dans les saisons à venir.
Super. On a pour habitude de demander un conseil de lecture à nos invités, ou bien... puisque tu es à la tête de la programmation du théâtre, est-ce qu'il y a dans le programme de la saison un spectacle en particulier que tu recommanderais à des gens qui n'ont pas d'abonnement ou qui voudraient découvrir à cette occasion le Théâtre Olympia?
Sur la fin de la saison, alors du coup, parce que
coup,
là, tu me prends un petit peu au dépourvu, parce que... Là, la saison, elle est déjà bien. Il reste un spectacle qu'on coprogramme avec le CCNT, qui est de la danse. Oui. Et puis, la dernière pièce de la saison, c'est Le Menteur de Corneille. C'est un des spectacles, une des propositions de théâtre classique. Mais qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil ? Là, je suis un petit peu prise au dépourvu, mais peut-être de s'intéresser à l'écriture de Nicolas Doutet, qui est présent là dans la sélection de la librairie du comptoir du Théo. Et que les spectateurs pourront retrouver la saison prochaine. Donc ça peut être un avant-goût, une mise en bouche.
Très bien. Eh bien, merci Bérangère. Merci voilà, de participer à cette résistance et à la défense de la culture dont on a absolument besoin pour faire face aux turpitudes du monde qui sont finalement de plus en plus inquiétantes et face auxquelles l'art en général, le théâtre en particulier, offre une belle résistance. Et merci voilà, d'œuvrer et de nous offrir pour nous spectateurs un week-end de spectacle vivant. C'est un vrai bol de jouvence que tu nous proposes. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir donné la parole. Au revoir.
On enchaîne avec une belle proposition qui fait se rencontrer l'œuvre hétéroclite et néanmoins poilante de Fab Caro avec la voix de Pascal et Daniel, nos amis pour toujours.
Je te quitte, Philippe. J'en peux plus.
Hein ? Mais pourquoi ?
Tu t'en fous de tout. Tu es totalement absent. Tu es là comme une ombre. Tu ne t'es jamais impliqué dans l'éducation des enfants. J'en ai marre. Je peux plus tenir.
Hein ? Mais c'est fou tout ça. Et c'est vraiment dégueulasse de dire que je me suis jamais impliqué dans l'éducation de Sandrine et Valérie.
Marc et Hugo !
Ouais, ne joue pas sur les mots.
On va faire une première pause musicale et écouter le décoiffant Porto Rico dont les gros sons ne manqueront pas de soulever la foule du Grand Chap d'au quart de tour samedi 14 juin. On vous propose de goûter son fameux jus d'orange de pomme.
Ladies and gentlemen, welcome on board flight 3746. We will be taking off shortly, so please fasten your seatbelts. Wishing you a pleasant journey with us. Gentlemen, please adjust your seats and fasten your seatbelts as we enter turbulence. No need for concern, everything is under control. And our Magellan pilot is ensuring a smooth journey. Hein? Allez, thank you. Enjoying your flight with us? Please let me know if I can offer you a beverage or light snack. Certainly, I have a daily suggestion for you. Oh, a refreshing drink. This is a jus d'orange de pomme.
Eh bien, de retour en direct du Théâtre Olympia à Tours, à l'occasion du Festival Wet, dont c'est la 9e édition. C'est Nadia qui ouvre le bal des chroniqueurs et des chroniqueuses. Elle nous propose une petite balade, que dis-je, un petit jog en terre d'Irlande avec Rappel à la vie de David Park.
Je vous propose un petit livre tout à fait charmant. Ça s'appelle Rappel à la vie de David Park, édité à la Table Ronde. On est entre les bonnes résolutions de la nouvelle année et pour certains, la préparation de son body summer. Alors je vous invite à relever le défi, nommé du canapé aux 5 km. Tous les personnages de cette histoire se sont inscrits à cette activité. Parmi eux, on trouve Maurice, un veuf retraité, Cathy, une bibliothécaire, ou encore Brendan et Angela, un jeune couple, Yana, une jeune réfugiée syrienne et quelques autres. Les séances se découpent en alternant marche rapide et course, et au final, surtout de la course. David Park fait entendre le monologue intérieur de ses apprentis coureurs. Maurice et ses acolytes ont chacun des raisons pour se remettre à la course. La remise en forme, la perte de poids, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Mais dans leur histoire, la parole fait souvent défaut. En revanche, le désir de se mettre en mouvement est bien présent. Voilà, ils ont décidé de faire quelque chose pour eux-mêmes et vont découvrir, au fil de leur pérégrination, ce qui motive leur challenge. Il faut avoir avalé des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir bavarder aimablement avec ses camarades de running pendant une course. Les débutants, eux, sont souvent confrontés aux rugissements de leurs poumons, aux ruades de leur cœur, aux tensions de leurs muscles, quand ce n'est pas leur squelette qui joue aux osselets. Alors sa turbine sec dans la tête, et là vraiment, on ne peut plus la raconter, se dire comme Maurice qu'on va fuir tout ce qui nous rend malheureux, garder une longueur d'avance sur son malheur. Peu à peu, un espace s'ouvre dans sa tête, il faut bien mettre carte sur table et s'inviter à quelques changements pour initier des évolutions dans sa relation à autrui. Et puis in fine, on découvre que la course permet aussi de se débarrasser de soi et d'être juste présent à l'instant présent. Et ça, c'est pas mal, parole de runneuse. Donc un petit livre à glisser dans votre poche pour une petite heure de lecture, histoire de rencontrer des personnages tout à fait sympathiques. Ça s'appelle « Rappel à la vie » de David Park aux éditions La Table Ronde.
Merci Nadia. On enchaîne avec Jimmy qui devait nous emmener en Afrique australe avec Caril Ferret, mais finalement non, il est resté en France pour nous parler d'une drôle de pièce de théâtre.
Alors oui, je disais donc que j'avais pas grand-chose sur le théâtre ou sur la danse, et je me suis dit que la scène politique, c'était il y a un petit côté théâtral. Hein, voilà.
C'est sûr.
Donc alors oui, c'est vrai qu'on est d'accord, on est tous d'accord. Hein. On se passerait bien parfois de leurs petites phrases, de leurs concours d'éloquence, et surtout de leurs dérives. Et c'est là que je raccroche avec ma chronique. Là, c'est là.
Okay.
C'est un bouquin de François Medlin, La résistance des matériaux. Donc on suit une enquête en plusieurs actes avec pléthore d'acteurs, une scène nationale avec quelques spectateurs étrangers qui sont les coursives, qui suivent les éléments de près sans y avoir vraiment été invités. Je sais bien, il n'y a rien de nouveau, hein. Y a rien de nouveau là-dedans. Shakespeare avait déjà bien pioché en ce sujet. Certes, avec des pincettes, parce que les risques étaient bien plus lourds pour lui hein, que les journalistes de Mediapart en France ne risquent pas de finir dans un cul de basse-fosse à la Tour de Londres. Hein,
ah, voilà. Mais ça risque de pas tarder quand même.
Et ça peut. Donc c'est une histoire de détournement, de fraude fiscale, de compte-rendu offshore, de vérité, de contre-vérité, d'influence, de retour d'ascenseur, de compromission, d'opposants politiques, de sympathisants perfides, d'amitié éphémère, de carrière, bref, tout ce qui remplit l'actu de la presse et du JT en ce moment, et même depuis certains temps. C'est exactement pourquoi on perd confiance dans les urnes. Les urnes de vote, hein, bien sûr, hein, les urnes funéraires restent toujours très fiables.
Oh, voilà. Jimmy.
Ah oui, bah oui, hein, petit bon, j'aime bien. Ouais. Sur la couve, l'accroche est très racoleuse. Hein. Le Elroy français, la barre est quand même très haute. Hein, très haute hein. Alors je reconnais, le style est très percutant, avec des phrases courtes, presque télégraphiques, qui donnent un rythme de campagne assez soutenu. Le tout est truffé de comptes rendus, des services de renseignement, d'écoute téléphonique et de messages numériques interceptés, à destination de François Hollande ou de Barack Obama, voire son destinataire. Ces notes sont insérées en italique, mot à mot, sans effet de style, sinon celui d'une conversation ou d'un SMS. Pour ma part, j'ai franchement pensé à Doha, plus qu'à Elroy. À Doha pour l'efficacité de l'écriture et aussi la profusion de personnages.
Ouais.
En revanche, François Medlin m'a un peu perdu sur certains points. Par exemple, il part du principe qu'on sait ce que c'est qu'un blanc. Hein. Alors un blanc en radio, je sais ce que c'est, hein. Mais un blanc comme ça, j'ai eu un peu de mal à comprendre ce que c'était, j'ai cherché, et après quelques recherches, j'ai donc appris qu'il s'agissait de notes blanches que les services de renseignement utilisent pour informer un destinataire non désigné, d'informations pas toujours certifiées, et surtout par un agent non signataire. Bref, c'est de l'information, on va dire... non vraiment, enfin officieuse.
Hein. Un tuyau.
Voilà. C'est un tuyau, voilà, c'est ça, c'est un tuyau. C'est un tuyau. Et puis il y a quantité de politiciens dont j'avais oublié les fonctions, et beaucoup que je ne connaissais même pas. Medline part du principe que l'on connaît tous ces politiciens.
Ah oui, il faut que tu regardes les dossiers de l'écran quand même.
Bah oui, c'est ça, ouais, j'ai un peu perdu le fil en fait, ouais. Ou les cas de vérité. Donc, il part du principe qu'on connaît tous ces politiciens, même ceux qui n'ont fait qu'un passage furtif, et il y en a. Et que l'on sait toutes des affaires liées au monde politique. Eh ben, je suis désolé, c'est pas mon cas. Et j'ai perdu le fil bien des fois.
Aïe, aïe, aïe.
C'est pas un bouquin qui est fait pour rassurer. Hein. Même s'il ne relate pas d'une affaire précise, il trace les contours de l'arène dans laquelle s'affrontent nos tribuns au micro de notre presse, espérant masquer leur bassesse et imposer leur pouvoir. C'est un bouquin qui incite plus à s'éloigner des urnes, à mon goût. S'il y a quelque chose de pourri au Royaume du Danemark, il en est de même dans la République française. Ah. Et t'as vu, j'ai quand même quelques références.
Pas mal la ref. Hein, pas mal, ouais, la ref. Ouais.
Voilà. Donc c'était un livre de François Medline, La résistance des matériaux, édité au Point.
Merci beaucoup Jimmy d'avoir adapté au dernier moment ta programmation au lieu qui nous accueille.
Un plaisir.
Et j'ai essayé d'en faire autant, à tel point que finalement, je vous propose non pas une chronique, mais deux chroniques. Le premier livre dont j'ai prévu de vous parler a reposé de longs mois après sa lecture, avant que je trouve une occasion de lui faire honneur. Il s'agit des 4 vérités de David Lodge. C'est certainement pas l'œuvre la plus connue de cet auteur prolifique britannique, mais bon, quand un livre d'un grand auteur vous tend ses pages depuis la boîte à livres du Jardin des Vikings à Tours, bah, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous le prenez et vous vous dites que vous allez passer un bon moment à le lire au coin du feu en fumant une bonne pipe, un plaid sur les genoux, en tournant doucement ses pages comme on boirait un bon whisky à petite lamplée, English style quoi. C'est tout moi. Cette novella tient d'ailleurs ses promesses. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, il s'agit d'une novella, mais une novella Kesako. Et ben, c'est une spécialité anglo-saxonne aussi, entre le roman et la nouvelle. 150 pages en gros format, bon, 1h30 de lecture, et c'est emballé. Alors, l'histoire, je vous la fais courte. Adrian est un écrivain en panne d'inspiration. Il a eu beaucoup de succès avec son premier roman, et puis là, la panne sèche. Et puis il est un peu aigri, surtout que son meilleur copain, Sam, lui, c'est un auteur à succès qui écrit des feuilletons, il écrit pour la télé à Hollywood. Bon bref, il a fait fortune, alors que le pauvre Adrian, lui, il est un peu en rade. Le problème, c'est que voilà, Sam tombe de son piédestal quand une jeune journaliste fait un portrait de lui au vitriol. Il se pensait intouchable et voilà qu'il dégringole. Donc il retourne voir son vieux pote Adrian et il lui demande de le venger en écrivant à son tour un portrait à charge contre cette jeune journaliste. Voilà, tout le roman se situe dans le salon d'Adrian. David Lodge enchaîne les dialogues. Adrian avec sa femme, Adrian avec Sam, Adrian avec la journaliste. Comme s'il s'agissait d'autant de scènes dont nous serions spectateurs, attentifs à la moindre tension, connaissant à l'avance les intentions d'Adrian et de Sam, en attendant le coup de théâtre, parce qu'évidemment, cela ne va pas se passer comme prévu, sinon à quoi bon en faire un roman. Bref, on se croirait au théâtre, tellement vrai que la postface de l'auteur nous apprend que cette novella n'est autre que l'adaptation d'une de ses pièces de théâtre. Coup de théâtre à nouveau, rideau, sur les 4 vérités de David Lodge, paru chez Rivage. Oui, alors, vas-y, répète, parce que t'as été censuré une fois plus.
Je trouve que c'est joli, vitriol dégringole, une jolie rime, c'est à souligner quand même.
C'est du travail, c'est du travail. Ouais. La seconde chronique concerne un livre tout récent, Manhattan Project de Stefano Massini, paru cette année chez Christian Bourgois Éditeur. Peut-être que ce nom ne vous dit pas grand-chose, mais je suis sûr que si l'on demandait au public du WET, beaucoup connaîtraient ce dramaturge italien, l'auteur vivant le plus représenté au théâtre dans le monde. Mais oui, messieurs, mesdames, rien que ça. J'avoue que j'ignorais tout ça en choisissant ce petit opus dans la caisse de Dépoche sous les yeux l'émission. À peine 300 pages et un titre qui m'a forcément titillé, Manhattan Project. Forcément, il est question de la bombe. Bon, là, je suis sûr que vous avez tous vu le film de Christopher Nolan, Non, t'as pas vu le film de Christopher Nolan? Bien sûr, Oppenheimer, c'était un peu longuet. Et je vous assure que la lecture de Manhattan Project est un peu plus courte. Bien sûr, il est question de cette épopée scientifique et technique qui a changé le cours du XXe siècle, voire le cours de l'histoire. Alors, à quoi bon ajouter un livre à ceux déjà nombreux qui sont sortis à ce sujet, me disais-je? L'auteur Stefano Massini, lui, ne s'encombre pas de ce genre de questionnement. Lui, le dramaturge, a plongé dans l'histoire de ces scientifiques, pour une bonne partie échappés de l'Europe de l'Est, pour en extraire un texte impressionnant, une explosion de mots, plutôt du style feu d'artifice que champignon atomique, je vous rassure. Et c'est à ce moment-là que je dois vous dire que Manhattan Project n'est pas un livre comme les autres, puisqu'il est écrit en vers libre. Oui, ce n'est pas un roman comme les autres, c'est un poème de 300 pages. Mais oui, wow. Madame, messieurs. Donc, ça tient plutôt du texte qu'on déclamerait en mode polyphonie qu'un livre qu'on lirait tranquille le soir. Une expérience de lecture réjouissante, déroutante, unique, que l'on imagine forcément portée sur les planches. D'ailleurs, un de ses textes précédents, Les frères Lehmann, disponible chez 1018, également écrit en vers libre, mais là sur 1000 pages, a fait l'objet d'une adaptation théâtrale qui a fait la une de Broadway et de Soho et qui a même obtenu le prix Médicis Essai et le prix du meilleur livre étranger. À dire que cet auteur est complètement inclassable. Et tout ça pour raconter quoi? L'histoire de Lehman Brothers, la banque qui a fait faillite et qui a déclenché la crise financière de 2008. Comme quoi le regard de l'artiste et son talent suffit à sublimer les sujets les plus arides. Avec Manhattan Project, paru chez Christian Bourgois Éditeur, plongez-vous aussi au cœur de l'écriture de Stefano Massini. C'est beaucoup plus court, beaucoup plus digeste. Regardez se percuter les mots jusqu'à ce qu'ils fusionnent et vous éblouissent.
Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau. Ça donne envie, hein.
Allez, nouvelle pause musicale dans Des Poches Sous les Yeux, l'émission pour nous en remettre à nouveau, pour nous permettre de découvrir avec une toute petite partie, mais de la très riche programmation du prochain festival au quart du tour. On vous propose cette fois-ci un avant-goût de la soirée du mercredi 11 juin avec Cap Bombino. Vous reprendrez bien une Human Pills. We'll be right back. de retour en direct sur les ondes de Radio Béton. C'est Des Poches Sous les Yeux, l'émission en direct du Théâtre Olympia en mode Festival Ouest, d'où l'ambiance sonore qui nous entoure. Pour nous remettre de cette pause musicale énervée, quoi de mieux qu'une chronique de notre ami Olivier? Pas sûr qu'avec V13 d'Emmanuel Carrère, il y parvienne. Va savoir.
Va savoir. Alors, vu que nous nous trouvons dans un temple de l'art, comme qui dirait dramatique, j'imagine que tout le monde ici sait déjà qu'avant-hier, le 27 mars, donc, c'était la journée mondiale du théâtre.
Oh.
Mais qui parmi vous sait en revanche que le 8 janvier est la journée mondiale du bain moussant? Le 11 mars, la journée mondiale de la plomberie. Le 23 mai, la journée mondiale de la tortue. Et le 31 du même mois, celle de la loutre, alors que celle de l'ours polaire a été fixée au 27 février.
Est-ce qu'il y a, Olivier, excuse-moi, une journée mondiale du slip?
J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, mais je vais m'enseigner, je te le dirai la prochaine
Merci
fois.
Merci beaucoup.
Et qui sait que le 25 septembre est la journée mondiale du rêve, le 6 juillet, celle du baiser, et le 13 novembre, celle de la gentillesse? Est-ce qu'ils le savaient, les 13 types qui, le 13 novembre 2015, ont décidé de tuer 130 personnes dans les rues de Paris? Alors 130 n'est pas l'objectif qu'ils s'étaient précisément fixé, et sans doute en auraient-ils tué davantage encore, si certains d'entre eux n'avaient fini par se faire auto-exploser, quand d'autres étaient neutralisés par les forces de l'ordre. Un seul survivra à l'opération meurtrière en quittant précipitamment les lieux, après s'être débarrassé de sa ceinture d'explosifs sans qu'on sache bien si son soudain revirement et le fait d'une prise de conscience aussi tardive qu'inattendue, d'une trouille devenue par trop invasive ou d'un problème technique pour le moins intempestif. C'est le procès de cet homme et de 10 autres qui ont participé de près ou de loin au carnage qui sert de fil directeur à V13, le livre d'Emmanuel Carrère. À partir du 8 septembre 2021 et jusqu'au mois de juin de l'année suivante, l'auteur de L'Adversaire, de Limonov, du Royaume et de bien d'autres choses encore en a suivi chaque audience à la demande du magazine L'Obs, pour lequel il écrivait à suivre des chroniques hebdomadaires et judiciaires. Chroniques qui se trouvent donc ici regroupées, légèrement remaniées et quelque peu augmentées. Sans minorer ni éluder les perpétuels changements d'angle auxquels son auteur avoue avoir été soumis au fur et à mesure que se succédaient les témoignages des différents intervenants, V13 se présente comme le récit d'un voyage tout à la fois au cœur de la machine judiciaire et au tréfonds de l'âme de celles et ceux qui s'y trouvent confrontés, sur lesquels Carrère pose son regard d'écrivain, de citoyen et d'être humain. Alors c'est le même, hein, il n'a pas trop à perdre. Des victimes, Emmanuel Carrère tente de restituer non seulement la souffrance, mais également la façon dont celle-ci tente de l'exprimer au mieux. Il y a celles qui ont échappé à la mort et doivent à présent vivre avec le souvenir de ce qu'elles ont vu, senti, entendu, ressenti à la terrasse d'un café du 11e arrondissement ou dans une salle de concert du boulevard Voltaire, et dont les mots témoignent tout autant de ce qui les unit que de ce qui les laissera à jamais seuls. Il y a aussi celles indirectes qui, ayant perdu un ami, un parent, un enfant, cherchent désespérément à composer avec ce manque impossible à combler. Chacun, en la circonstance, fait comme il peut avec ce qu'il a. Un homme dont la fille a été tuée au Bataclan déclare devant la cour « On m'accuse d'être haineux. Et c'est vrai, monsieur le président, j'ai la haine. Et ce qui me dégoûte le plus, ce sont les parents des victimes qui ne l'ont pas, la haine. Le monsieur qui a écrit un livre avec le père d'un des terroristes, ça me fait vomir. » Alors le monsieur en question, c'est Georges Saline, dont la fille a elle aussi été assassinée alors qu'elle était venue écouter les Eagles of Death Metal, et qui a décidé de rencontrer Hasdin Amimour, le père de l'un des tueurs, avec lequel il a écrit un livre joliment intitulé « Il nous reste les mots ». Emmanuel Carrère constate que la plupart des témoins appelés à la barre affirment ne pas éprouver de colère, mais attendre un procès équitable, parce que selon eux, crier vengeance, c'est donner la victoire aux assassins. Et tout en admirant leur dignité, ils pensent que c'est une bonne chose, qu'au moins une fois sur 250, on ait entendu la voix morose et sans pardon de ce père inconsolable qui ne peut contenir sa haine. Une bonne chose, car la justice doit permettre d'entendre tous les mots, toutes les voix et toutes les émotions. Un événement comme celui du 13 novembre a vite fait de provoquer les réactions les plus vives, tant les actes commis paraissent atroces et incompréhensibles, y compris aux individus qui n'en ont pas été les cibles directes. Dans ce genre d'occasion, on entend souvent des appels à la remise en service de la guillotine ou des interrogations outragées sur l'utilité d'offrir à des assassins avérés le soutien d'un avocat. Peut-être effrayés à l'idée de se trouver des points communs avec d'abjects criminels, certains préféraient que ceux-ci ne soient pas vraiment des hommes, mais plutôt des monstres qui ne méritent rien d'autre que d'être abattus sur le champ comme des chiens enragés. Sur l'unique survivant du commando terroriste, Carrère écrit « On est plutôt frappé par la légèreté, l'inconsistance, l'inconséquence de ce garçon qui a participé au massacre de 131 personnes, mais que tout le monde décrit comme gentil, et peut-être bien qu'il l'est. Qu'il le soit peut-être bien n'excuse pas ce qu'il a fait, pas plus que ce qu'il a fait ne justifie que lui soit dénié son statut d'être humain. Mais rendre la justice, ce n'est pas excuser, ce n'est pas pardonner, et ce n'est pas non plus uniquement punir. C'est exposer les faits, mettre en lumière leur déroulement, comprendre leur enchaînement et établir, au bout du compte, non pas ce qui est bien ou mal, mais ce qui est conforme ou non aux règles de la vie collective sur lesquelles sont construites notre société. Carrère résume en une formule saisissante ce qui se joue dans une cour d'assises. Je cite. Recueillir ce qui a été dit et au lieu de le disperser, transformer l'affect en droit. C'est cela ou cela devrait être ça, un procès. Au début, on dépose la souffrance, à la fin, on rend la justice. Alors vous l'aurez compris, à partir du récit tout plein de subjectivité du procès des attentats du 13 novembre 2015, V13 ouvre une réflexion bienvenue sur la façon dont nous envisageons de vivre ensemble. Plus que bienvenue, j'ai envie de dire salutaire en ces temps de dérive autoritaire et d'instrumentalisation de la peur, qui semble vouloir hausser le concours de bites au sommet de la rhétorique politique et laisse quand même pas mal à penser que la journée mondiale de la connerie, c'est tous les jours. Pour vous aider à amorcer votre propre réflexion, je vous soumets en guise de conclusion ces autres mots d'Emmanuel Carrère. Apprendre à substituer le droit au talion, la justice à la vengeance, ça s'appelle la civilisation. V13 d'Emmanuel Carrère est édité chez Folio.
Merci beaucoup Olivier et finalement ça me donne beaucoup envie de lire ce bouquin puisque tu en parles, d'habitude tu te promènes autour des livres que tu chroniques, là vraiment tu nous donnes vraiment envie de le lire, merci beaucoup. On poursuit notre promenade littéraire méridienne avec Pascal qui nous emmène en direction de la planète Mars, rien que ça.
Ready pour le grand voyage ?
Ready !
Pour un aller sans retour vers Mars ? Alors je vous conseille la lecture de Girlfriend on Mars, une délicieuse satire de la télé-réalité et des réseaux sociaux. Démonstration en trois actes de la capitaine de bord, Deborah Willis, autrice canadienne, dont c'est le premier roman. First one. Amber et Kevin, trentenaires désabusés et éco-anxieux, vivotent à Vancouver. Sans trop de perspectives, sans véritable but dans la vie, y compris dans leur vie de couple. Ils ont transformé leur appart en culture de cannabis parce que le travail d'intégration dans la société, c'est pas trop leur truc. Second. Alors qu'Elon Musk et Donald Trump nous bassinent avec Mars, Amber répond en cachette à un concours de télé-réalité qui enverra deux personnes sur Mars. Pas les plus compétentes, non, mais celles qui auront le plus de likes. Yes, guy, les followers sur les réseaux sociaux se foutent bien de tes aptitudes. Third, Amber est sélectionnée et participe enthousiaste au concours. Kevin lui s'enfonce dans la junk food et la défonce et regrette bien de ne pas s'être donné un peu plus de mal pour garder Amber qu'il voit maintenant se pavaner à la télé aux côtés d'un bellâtre. Bah ouais mec, un petit je t'aime, c'est autorisé. Amber sera-t-elle parmi le couple finaliste pour poser la première base martienne et à terme sauver l'humanité ?
Suspense.
Est-ce que cela a un sens de s'enthousiasmer pour les délires interplanétaires des puissants de ce monde ? Est-ce que cela a un sens de se poser ces questions ?
Oui.
Eh ben, vous le saurez en ricanant et en lisant Girlfriend on Mars de Deborah Willis, édité par Rivage.
Merci Pascal. Allez, on reprend le volant de notre DeLorean et on se refait un nouveau voyage dans le temps. Nous voici vendredi 13 juin 2025 sous le grand chapiteau du festival Au Quart de Tour. On écoute les Tourangeaux de Thelma en mode nocturne animal. I'm a lion through my teeth, I'm drinking all your tears, meanwhile you can catch my stream, yeah. Blondie by my wrist, the path narrows, we'll step on stage, she loved to see me, lost my fifth, my head sipping, sipping again. My body's still divided like a stranger, attack my fucking brain hostage, sketch a smile on this can't face, making it to a creepy mess. Eyes me on my head, I see you talking off my nest, I don't know why, I'm so scared I could silence your bullshit. I just have to let the demon speak, even if it poisons my dreams, it invade my body, I don't pour you on a good bit. And I slip it from my dreams, yeah. I'm the word I'm talking about, this is my son here. I'm a lion through my teeth, I'm drinking all your tears, meanwhile you can catch my strength, yeah. My rook runs step by step, I'm feeling full of bitterness. My body dies and dies again. But it be kind to your divine mystery. The time of greatness finally come to you. Could tell me come for fame, revolution isn't my words. Talking of the man as if they rule of the system. Don't ask me why it makes me sad. You only see it through your dick. I wanna scream in the street, but all my anger in my feet. Open my mouth, defend, cause this cross borders to finally win. And I slip it from my dreams, yeah. I'm the word I'm talking about, this is my son here. I'm a lion through my teeth, I'm drinking. Du festival au quart de tour au festival Ouette, il n'y a qu'un pas que seules les ondes de Radio Béton permettent de franchir. Pascal, je te propose de garder le micro car on accueille sur les ondes de Radio Béton Daniel Schneiderman que tu reçois à l'occasion de la sortie de son livre « Le charlisme ».
Alors, il y a 10 ans, de nombreux Français ont défilé sous la bannière « Je suis Charlie » après la tuerie qui a coûté la vie à 12 personnes, dont les dessinateurs Cabu, Sharp, Tinius, Honoré, Volinsky. En début d'année, Daniel Schneiderman sort « Le charlisme raconté à ceux qui ont jadis aimé Charlie », édité par Le Seuil. Daniel Schneiderman, bonjour.
Bonjour.
Alors, racontez-nous d'abord ce que représentait pour vous Charlie Hebdo.
Toute ma jeunesse. Toute ma jeunesse. Moi, je suis de cette génération qui a été lycéenne avec le Charlie de la grande époque, dans les années 70, c'est-à-dire avec le Charlie de Cavana, de Choron, de Reiser, Cabu, GB, Volinsky, etc. Je dirais que ce Charlie-là a contribué à ma formation politique, pas tout seul, mais il a contribué à ma formation à l'écologie, à l'antimilitarisme, à l'humour, voilà, à la dérision. Et donc, effectivement, quand le 7 janvier 2015, j'ai appris l'attentat contre Charlie Hebdo, et quand j'ai entendu à la radio les noms de Volinsky et de Cabu, et de Charb aussi. Charb, il vient un peu plus tard, hein, mais quand même, quand je les ai entendus cités parmi les victimes, je me suis senti personnellement atteint. Je veux dire, l'attentat de Charlie Hebdo, il m'a atteint, moi, profondément dans une composante de mon identité.
Et d'ailleurs, tu t'es senti Charlie ce jour-là ?
Totalement. Totalement.
Avec défilé et compagnie ?
Ah, j'y suis allé. Le défilé du 11 janvier... derrière Hollande et Netanyahou, on me voit dans la foule. J'étais juste à côté d'ailleurs de Rachida Dati. Ouais. Mais je m'étais retrouvé là par hasard d'ailleurs. Je ne voulais pas du tout être dans le carré de tête. Et puis comme j'avais pris la manif par une rue latérale, en fait je me suis retrouvé derrière Rachida Dati, au milieu des gens du CRIF, des associations antiracistes, de la mairie de Paris. Enfin voilà, puis voilà, on était tous impliqués. Hein.
Et déjà, à l'époque, tu dénonces une dérive éditoriale.
À l'époque de qui ?
À l'époque de Philippe Ball.
C'est pas que je la dénonce, je la constate. Je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Il y a quand même des trucs bizarres. Il y a des prises... notamment, par exemple, sur le militarisme. Enfin, je veux dire, le Charlie de Cavana, c'était un Charlie profondément antimilitariste. Avec des gens comme Cabu, par exemple. Cabu, c'est l'adjudant Cronenbourg. Enfin, je veux dire, il a l'antimilitarisme dans ses gènes. Et le Charlie que fait reparaître Val dans les années 90, c'est un Charlie qui est au contraire favorable aux guerres de l'OTAN, par exemple contre la Serbie, contre Milosevic, etc. Avec, étrangement, le soutien de gens comme Cabu, qui était resté là... et qui continuait à soutenir. Donc voilà, je constate, mais après tout, voilà, tout le monde évolue dans la vie. Donc c'est plus ma came, quoi. C'est plus ma came.
Et tu vois aussi une dérive vers une certaine islamophobie ?
Oui. Enfin, je vois en tout cas une dérive vers une islamophobie. Alors là, surtout un peu plus tard, à partir du World Trade Center, c'est-à-dire à partir de 2001, et encore davantage dans les controverses à propos du foulard islamique, des signes religieux à l'école, etc. Je les vois quand même très très laïcards, anti-signes religieux à l'école. Enfin voilà. Et je note ça. Bon, et c'est quelque chose que je ne partage pas, dans lequel je ne me reconnais pas. Mais enfin, ça reste encore un journal. Ils ont finalement le droit de dire ce qu'ils ont envie de dire. Enfin, disons que je m'en tiens à l'écart, quoi.
Parce que moi qui étais un lecteur occasionnel, j'avais l'impression qu'ils se moquaient de manière assez égale de toutes les religions, et ça m'allait très bien.
Peut-être à l'origine. Mais très vite, il y a une religion dont ils se moquent davantage que les autres, c'est quand même l'islam. Je veux dire, et notamment à partir de l'histoire des caricatures de Mahomet. Là, ils deviennent vraiment beaucoup plus islamophobes que, enfin, je veux dire, le nombre de caricatures sur l'islam comparé au nombre de caricatures sur le judaïsme ou sur le catholicisme, à partir de ce moment-là, il y a plus, voilà, il y a plus photo, quoi. Et là, je me dis, il y a quand même un problème. Je veux dire, là, le fait d'être contre toutes les religions en général, ça me va très bien. Le fait de taper de manière privilégiée, obsessionnelle sur l'islam, qui est tout de même en France une religion majoritairement pratiquée par les classes dominées, ça me pose un petit problème.
On peut quand même dire qu'au début des années 2000, les extrémistes religieux les plus dangereux étaient quand même du côté de l'islam.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, non, mais après tout, si vous voulez, c'est leur liberté. J'ai rien à dire à ça. En tout cas, oui, c'est ceux qui faisaient les morts. C'est ceux qui faisaient les morts.
Finalement, publier les caricatures de Mahomet, c'était une erreur ou pas?
Alors, il y a publié et publié. Parce qu'effectivement, vous avez raison de le rappeler, il publie leur apparition sur la scène politique majeure et comme acteur politique majeur, c'est quand il publie les caricatures de Mahomet qui avaient été publiées dans ce journal danois. Il y a publié et publié. Alors, soit on publie parce qu'on les trouve drôles, efficaces, mais ils ne les ont pas publiés parce qu'ils les trouvaient drôles et efficaces. Ils les ont publiés comme un manifeste. Ils les ont publiés en étant à la radio pour expliquer que cette publication était un acte politique. Cette publication des caricatures s'est doublée à l'époque d'une tribune libre de Bernard-Henri Lévy et des dirigeants du Charlie de l'époque, Philippe Val et compagnie, une publication dans Le Monde en expliquant bien que c'était un acte politique. Donc ça devient autre chose à ce moment-là. Si vous voulez, à l'époque, moi, je m'occupais d'arrêt sur image sur France 5. On avait consacré quand même pas mal d'émissions au sujet. Et évidemment, comme l'enjeu du moment, c'était... Alors, on les publie, on les publie pas, on les publie comment, voilà. On s'est posé aussi la question arrêt sur image. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on va publier simplement celle qu'on trouve nécessaire à la compréhension du sujet par nos auditeurs. On va publier celle-là. On n'est pas monté sur le toit en faisant une proclamation politique en disant « Regardez d'où on publie les caricatures. Regardez comme on est courageux. » Si vous voulez, on va dire la publication d'une caricature, c'est le texte. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le paratexte, c'est-à-dire ce qui entoure cette publication, c'est-à-dire tout ce qui dit pourquoi on publie ça, pourquoi on le publie de cette façon-là, etc. Et voilà, là j'ai trouvé qu'ils changeaient de rôle. Je ne dis pas qu'ils sortaient de leur rôle, ils ont le droit d'avoir le rôle qu'ils veulent, mais c'est mon droit aussi de dire, là, ils ont changé de rôle.
Et donc, dans le livre, vous développez le concept du charlisme, qui est un oui. Concept de Schneiderman.
Oui, c'est vrai. Ben, en fait, comment c'est né? C'est né d'une discussion avec mon éditrice, qui me demandait sur quoi j'avais envie de travailler. Et je lui dis, moi, il y a un sujet quand même qui me travaille beaucoup, c'est d'essayer de comprendre comment tant de gens de ma génération, qui ont commencé en étant de gauche, ont viré réac, quoi. Et elle me dit, mais tu penses à qui? Je lui dis, je sais pas, moi, des gens comme Philippe Val, par exemple, qui a commencé comme un chansonnier anarchiste, des gens comme Caroline Fourest, elle est un peu plus jeune que moi, Caroline Fourest, mais bon. Et c'est à ce moment-là que je lui dis, ben, tous les charlistes. Et elle me dit, ah, c'est intéressant ça. Donc, est-ce que tu pourrais pas travailler là-dessus? Et c'est là, dans une discussion comme celle que nous avons en ce moment, autour d'un, je sais plus si on buvait du thé ou quoi, c'est là que finalement, je me suis dit, tiens, ce concept de charlisme, faudrait creuser. Et en plus, si vous voulez, là où je trouvais ça drôle, c'est que ça faisait un parallèle avec islamisme, c'est-à-dire les charlistes disent, mais nous n'avons rien contre l'islam, nous en prenons à l'islamisme, ce qui me permet de dire, moi, en réponse, mais je n'ai évidemment rien contre Charlie Hebdo. Mais par contre, le charlisme est distinct de Charlie.
Alors, c'est quoi la définition du charlisme?
C'est la transmutation d'un journal en mouvement politique, en fait. En mouvement politico, idéologico, en solidarité professionnelle, interprofessionnelle, en nébuleuse idéologique. Voilà. C'est-à-dire, c'est le moment où on sort de... On sort du « je suis Charlie ». C'est le moment où on passe du « je suis Charlie », le « je suis Charlie » étant une proclamation individuelle, ça c'est 2015, au « charlisme ». Le « charlisme », du coup, ça devient plus qu'une proclamation individuelle, ça devient, j'ai envie de dire, une affiliation presque obligatoire.
Qu'on ne peut plus critiquer.
Et qu'on ne peut plus critiquer. Parce que « je suis Charlie », tu me dis « je suis Charlie », j'ai toujours la possibilité de te répondre « ben moi non ». Voilà. Bon, tandis que le charlisme, là, il y a une espèce de, d'obligation. Et si vous n'êtes pas Charlie, j'ai envie de dire, c'est comme si vous étiez pas cachère, quoi. C'est pour, on sent que dans un certain nombre de médias dominants français aujourd'hui, notamment audiovisuels, surtout audiovisuels, mais pas seulement, l'obéissance et la conformité à un certain nombre de préceptes charlistes est devenue une sorte d'obligation.
Voilà, c'était donc le charlisme, interviewé par Pascal, donc, dont l'auteur, bien sûr, vous avez reconnu sa voix, hein, Daniel Schneiderman. Son dernier livre est paru au Seuil. Voilà. Mais quelle heure est-il ? C'est l'heure de votre feuilleton radiophonique, pardi. Mais oui, c'est le moment d'écouter le 16e épisode de La Bourboule Parano.
Le 16e déjà ? On n'a pas vu le temps passer.
Eh ben, vous avez tort. C'est là que j'ai connu Albert.
La Bourboule Parano. Le feuilleton, made in béton.
Toujours rien dans l'épisode précédent. Les personnages sont en roue libre. On apprend que le prez aime checker son bouti à la manière de Caroline Carlson. Alors là, moi, franchement, je visualise même pas ce que ça peut donner. Ah oui, dans l'épisode, on assiste au retour de la folle Stella, avec son casou ultra-harmonique. Je me demande si elle comprend ce qu'elle raconte. Réécoutez l'épisode si vous ne me croyez pas.
Ah, voilà Georges. Salut copain, comment vas-tu? C'était bien la réunion chez Georges? Vous avez avancé sur l'orga?
Mais pas mal, mais ça coince au niveau de la buvette. Georges ne veut proposer que du birlou et j'ai peur que ça ne pèse pas à tous les festivaliers.
Ben pourquoi? Bon le birlou?
Bien sûr que c'est bon, le problème n'est pas là, mais il faut être habitué, quoi, tu sais. Il paraît qu'il y a des gens à qui ça donne des gaz.
Et qu'est-ce qu'il dit, Georges ?
Georges ?
Non, Georges.
Ah, Georges ! Bah, il dit la même chose que Georges, en fait.
Ouais, comme d'habitude, quoi.
Il y a guère que Georges qui serait plutôt de mon avis.
Georges ? Tiens, c'est nouveau, ça.
Bah non, pas Georges. Georges.
Ah, oui, je me disais aussi. Mais bon, on en reparlera plus tard. Laisse-moi te présenter nos invités.
Moi, c'est la patronne.
Georges.
Le prez.
Georges.
Chicken.
Georges. Alors, ça vous plaît la bourboule? C'est bucolique, non?
Je sais pas, on vient juste d'arriver. Alors, on n'a pas encore eu le temps de choper la touriste.
Non, chicken. Bucolique, ça veut dire champêtre.
Ah oui, d'accord. Et du coup, champêtre, ça veut dire quoi?
Pastoral, si tu préfères.
Non, en fait, je préfère pas.
Bon, enfin, bref. Dis-moi, Georges. Bidon me racontait que tu as vu le fantôme de Johnny Hallyday.
Mais comme je te vois, ma petite fille.
Oh putain, ça va chier des bulles.
Ah oui, d'accord, très bien. Et donc ce serait lui qui t'aurait demandé d'organiser un festival de musique et de pêche.
Exact. Et ce n'était pas seulement un chanteur d'exception, c'était aussi un pêcheur hors pair.
Hors pair de quoi?
C'est marrant parce qu'on le connaît pas tellement comme ça en fait.
Hein. Ah mais si, pratiquement tous les étés, il venait se reposer à la Bourboule et il adorait la pêche. Je l'ai croisé bien souvent.
Ah ouais, tiens.
Un excellent pêcheur d'ailleurs. Mais lui, ce n'était pas trop la truite, hein. Plutôt le thon.
Le thon ? Dans la Dordogne ?
Mais oui, le thon.
Mais le thon, c'est pas tellement un poisson d'eau douce.
Tu es pêcheur, mon petit gars ?
Non, pas trop. J'aime pas trop qu'on fasse chier les animaux, en fait.
Ah, mais non, mais alors, pas du tout. Tu vois, le pêcheur, c'est un vrai amoureux de la nature. Il peut rester des heures à attendre le poisson. Et des fois, il revient bredouille. Et c'est pas grave. Il est heureux quand même. Plus heureux que sa bonne femme parce que du coup, elle n'y a rien à bouffer pour le déjeuner.
T'es con ! J'adore.
Le plus important, c'est le rapport qui s'instaure entre le pêcheur et le poisson. Tu vois, entre celui qui attend et celui qui se dérobe. Moi, j'ai pu taquiner une truite pendant des heures sans être foutu de la choper. Tournait autour de la mouche, s'approchait, hésitait. Je voyais bien qu'elle était tentée, mais non ! À chaque fois, elle faisait machine arrière. Elle jouait, tu comprends ? Elle jouait avec moi.
Ouais, c'est ça. Ou alors c'est qu'elle avait vu l'hameçon, non ?
Mais ça, les non-pêcheurs ne peuvent pas le comprendre. Faut le vivre. C'est un rapport de séduction, tu vois. De séduction et de respect. C'est comme quand tu vas draguer en boîte.
Oh putain, je le sentais venir.
Tu repères une belle nana qui te plaît, tu vois. Alors tu t'approches, tu les tournes autour. Tu mets tes atouts en avant et puis des fois, eh ben, ça marche. Tu la ramènes à la maison et puis des fois, ben, ça marche pas et tu te la mets derrière l'oreille. La pêche, c'est pareil. J'imagine que t'as déjà dragué une nana en boîte.
Oui. Oui, mais rarement en lui plantant un crochet en ferraille dans la lèvre.
C'est parce que t'es pas pêcheur.
Oui, c'est marrant ça. Hein. Parce que les chasseurs de sangliers tiennent à peu près le même discours.
Chut, le presse, mollo là.
Ah non, alors excuse-moi, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que les sangliers, tu les chasses pas avec une canne à pêche.
Remarque très pertinente, Chicken.
Non, mais c'est hyper risqué comme technique. Hein. Moi, je vois, tonton Bébert, il a essayé. Eh ben, ça lui a pas réussi du tout. Hein.
Tonton Bébert ?
Oui, c'est le frère à ma mère, Jean-Philippe. Mais on l'appelait Bébert parce que fallait pas le confondre avec Raoul, l'autre frère de ma mère. Ben, bon. Tonton Bébert, il aimait bien chasser le sanglier parce qu'il était fan d'Obélix. Et un jour, il s'est dit comme ça que ce serait pas mal de les choper avec une canne à pêche. Vu que les fusils, c'était pas trop son truc, à cause du bruit, les détonations, ça lui foutait la trouille. Alors il s'est dit comme ça, si ça marche à l'espadon, ça doit marcher aussi pour le sanglier. Donc il y va, avec du bon matos et tout, il lance, il avait à pâté avec des glands, et là, paf ! Du premier coup, il a un gros sanglier qui chope l'hameçon. Forcément, ça l'a surpris, le sanglier. Et pas dans le bon sens du terme, si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je vois bien.
Alors ce con, il se met à cavaler comme un taré. Et tonton Bébert, ce qu'il aurait dû faire, c'est me laisser filer. Mais non, tonton Bébert, c'était pas le genre à laisser filer. Hein. Il s'est accroché des deux mains à sa canne et du coup, il s'est fait traîner sur 250 mètres à travers la forêt. En se prenant toutes les souches dans la gueule, en passant dans les orties. Et je peux te dire que les orties, ça fait super mal. Et je sais de quoi je parle.
Non mais sérieux, t'en as encore pour longtemps là ?
Non, non, c'est quasiment fini. Parce qu'à un moment, le sanglier il s'est arrêté. Et là, tonton Bébert a cru qu'il allait pouvoir le ferrer. Et bon, franchement, il était pas au mieux de sa forme, hein, franchement. Alors, il a commencé à tourner le moulinet pour ramener le sanglier. Mais le problème, c'est qu'à l'autre bout, il n'y en avait pas un, mais au moins cinq ou six. Celui qu'il avait chopé était allé cafeter à ses potes. Ils revenaient tous avec des intentions, comme qui dirait, vindicatives.
Vindicatives ?
Ouais, tu sais pas ce que ça veut dire. C'est quand on a gros sur la patate et que t'as décidé de te faire justice toi-même.
Oui, oui, je sais, mais c'est... Enfin, peu importe, poursuis.
Oui, et conclue, par pitié.
Ah bah, ça va pas être long. Hein. Les sangliers se sont rués sur tonton Bébert. Et ils l'ont piétiné comme une merde. Mais piétiné de chez piétiné, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Quand on l'a retrouvé, heureusement qu'il avait sa casquette, avec tonton Bébert brodé dessus. Parce que sinon, on aurait pu croire que c'était juste une vieille flaque de vomi agrippée à une canne à pêche.
Eh bien, merci Chicken pour cette anecdote. Comment dire... édifiante.
Édit quoi ?
Et sinon, Georges, on a bien compris l'histoire de la pêche, mais pourquoi ce nom de festival, Poisson Perché ?
Alors ça, c'est une autre histoire, ma petite fille.
La Bourboule Parano. Le feuilleton, made in béton.
Eh oui, vous avez bigrement envie de connaître la suite, alors je vous conseille d'aller sur votre site de podcast préféré, podcast-radiobéton.com, pour découvrir tous les épisodes de la saison 8. D'ailleurs, mon pote Michou Sardel m'a dit qu'il y avait une saison 2 qui était en cours de préparation. Mais qui est Michou Sardel ? Et c'est sur cette note de suspense qu'on s'achève cette nouvelle émission de la quatrième saison de Dépoche sous les yeux, l'émission. Nous étions ravis d'être en direct du Théâtre Olympia à l'occasion de la 9e édition du WET, grâce auquel je vais pouvoir enfin faire le plein de spectacles vivants tout le week-end. Merci beaucoup. Pour les inconditionnels de cette émission, Il paraît qu'elle serait rediffusée samedi 5 avril à la même heure. Et pour les plus connectés, retrouvez l'intégralité de cette émission sur le site de podcast, podcast-radiobéton.com. Et on se retrouve donc le 26 avril pour une nouvelle émission. D'ici là, allez chez vos libraires préférés, dans vos bibliothèques municipales, allez où vous voulez, mais lisez. Ciao!
Des poches sous les yeux, l'émission. Ciao! Get up, get up, get up.